retrouver les interviews santé de Rebecca.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Jeudi 29 février aura lieu la 17e édition de la Journée internationale des maladies rares. L'objectif est de sensibiliser le grand public aux maladies rares et à leur impact sur la vie des patients et leurs familles. Pour aborder ce sujet, je reçois le docteur Georges Julia, médecin interniste actuellement à l'hôpital de la Conception à Marseille. Bonjour docteur Georges.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. En France, chaque maladie rare touche moins de 30 000 personnes. Mais du fait de leur nombre cumulé, 3 à 4 millions de Français sont concernés directement parmi les 25 millions d'Européens touchés. Ces maladies affectent souvent les enfants, mais également les adultes. Malgré l'accès aux médicaments orphelins et les recherches actives dans ce domaine, la plupart d'entre elles ne bénéficient pas d'un traitement curatif. Pour commencer, qu'est-ce qu'une maladie rare ?
Alors, tout d'abord, une maladie rare, c'est d'abord une définition épidémiologique. Qui dépend des pays. En Europe, par exemple, on dit qu'une maladie est rare lorsqu'elle touche une personne ou moins pour 2000 personnes. Cela montre que chacune de ces maladies touche un nombre restreint de personnes. Mais en même temps, il y a un peu plus de 6000 à 7000 maladies rares, et toutes ces pathologies concernent au final 4,5% de la population en France. Ce sont donc bien des maladies rares prises de façon séparée, mais quand on les regroupe, on voit qu'elles ont une importance à l'échelle de la population générale, et donc c'est peut-être même un problème de santé publique. De plus, ce sont des maladies souvent sévères, chroniques, qui peuvent devenir évolutives et entraîner une altération de la qualité de vie et du pronostic vital. Ce sont aussi des maladies qui peuvent être très hétérogènes. Elles sont fréquemment dues à des maladies génétiques et elles débutent alors souvent à l'âge de l'enfance. Mais elles peuvent aussi être polyfactorielles, dues à plusieurs facteurs. Et alors, elles peuvent s'exprimer sous forme de cancers rares, de maladies auto-immunes, de maladies infectieuses et apparaître du coup à des moments différents de la vie et présenter de nombreux symptômes différents.
Alors, quelle est la différence entre une maladie rare et une maladie orpheline ?
En bref, les maladies rares, ce sont les maladies orphelines, ce sont des maladies rares, mais qui n'ont pas de traitement curatif. Donc voilà.
Alors, est-ce que les maladies rares touchent plus particulièrement une certaine tranche d'âge de patients ?
Alors, on ne peut pas donner de pourcentage pour chaque patient, pour chaque maladie et chaque tranche d'âge, mais effectivement, on va dire qu'en globalité, les maladies rares touchent principalement les personnes jeunes, enfants ou jeunes adultes, parce que ce sont souvent principalement des maladies génétiques. Mais il y a aussi, comme on avait dit, d'autres maladies, des cancers, maladies auto-immunes, maladies infectieuses, qui peuvent toucher tous les âges. Mais on va dire que globalement, oui, plutôt enfants et jeunes adultes.
Pouvez-vous citer quelques exemples de maladies rares et décrire leurs symptômes caractéristiques ?
Bien sûr. Donc, on va probablement parler des deux maladies génétiques les plus fréquentes qui sont notamment dépistées lors du diagnostic néonatal. On va commencer par, je pense que tout le monde a entendu parler et connaît, la mucoviscidose, qui est une maladie génétique qui entraîne un défaut de production d'un récepteur, un transporteur d'eau au niveau de certaines cellules, notamment les cellules du poumon et notamment les cellules du pancréas, qui vont entraîner donc une insuffisance respiratoire chronique avec des infections et une insuffisance pancréatique et qui peut être très sévère parce que l'infection respiratoire peut devenir tellement invivable qu'on peut entraîner, ça peut entraîner la mort. Et donc on propose notamment par exemple des greffes du poumon et des greffes du pancréas tellement l'organe va devenir déficient. Une autre maladie génétique très connue qui s'appelle la drépanocytose. Donc ça, c'est une maladie génétique qui touche un des composants du globule rouge qu'on appelle l'hémoglobine. Cette hémoglobine, normalement, elle va permettre au globule rouge de transporter l'oxygène. Et quand elle est pathologique, le globule rouge, qui est normalement une cellule assez déformable, va devenir rigide. Et au moment des épisodes de stress, il va devenir de plus en plus rigide et va obstruer les vaisseaux et entraîner ce qu'on appelle des petites ischémies. Et donc ces ischémies vont être très douloureuses. Donc c'est des patients qui ont une altération de la qualité de vie majeure parce qu'ils ont des douleurs fréquentes, mais des douleurs, on dit qu'ils nous décrivent comme des coups de poignard dans les os. Donc c'est très 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 gênant et ça entraîne des multiples hospitalisations avec des médicaments très forts comme de la morphine. Et ça aussi, c'est vraiment très handicapant. Et enfin, parce que du coup, par rapport à mes spécialités, je vais vous parler aussi d'une maladie auto-immune qui est une maladie que les gens peuvent entendre, ça s'appelle le lupus. Donc c'est une maladie qui n'est pas que génétique, on sait que c'est polyfactoriel, donc environnemental, génétique, hormonal, plein de choses. Et ça, c'est une maladie qui s'exprime principalement au niveau de la peau, avec des réactions au soleil, mais aussi d'autres anomalies cutanées, au niveau des articulations, des douleurs articulaires. Ça, c'est principalement, mais ça peut toucher tous les organes, et notamment, par exemple, le rein, qui est un organe très important, et il peut aller jusqu'à l'insuffisance rénale. Donc, vous voyez bien que je vous ai parlé que de trois maladies, et ces trois maladies sont complètement différentes et s'expriment complètement différemment.
Alors, comment les maladies rares sont-elles diagnostiquées et traitées ?
Donc, c'est un peu la suite de ce qu'on dit, c'est que ça dépend de la maladie. C'est-à-dire que, toujours pareil, en médecine, on réfléchit toujours pareil. D'abord, il y a le contexte, quel âge ça commence, quel sexe ça touche, une femme, un homme. Ensuite, il y a les signes cliniques, donc les signes cliniques qui vont nous orienter en fonction de la maladie. Et ensuite, si on suspecte une maladie génétique, avec une mutation, on va la chercher, notamment pour la mucoviscidose, pour d'autres maladies génétiques. Par contre, si c'est, et on la cherche et on la trouve, et si on la trouve, on a le diagnostic. Par contre, si ce n'est pas des maladies génétiques et c'est plutôt des maladies multifactorielles comme le lupus, on va faire d'autres examens pour nous orienter, notamment des prises de sang, notamment des examens de radiologie, d'imagerie. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un faisceau d'arguments, c'est-à-dire des arguments cliniques, biologiques, paracliniques. Et en fait, avec ça, on va faire le diagnostic. Et ensuite, le traitement, pareil, il va dépendre de la maladie. Soit ça va être des traitements pour remplacer ce qui ne fonctionne pas bien, soit pour soulager les douleurs, soit pour diminuer l'immunité. Donc, chaque maladie a son traitement spécifique.
Qu'est-ce qu'un médicament orphelin ?
Alors, les médicaments orphelins, je pense aussi que c'est une définition qui a été créée par le gouvernement. C'est des médicaments qui sont produits pour les maladies rares. Du fait du faible nombre de patients atteints pour chaque maladie rare, la recherche et les médicaments qui vont être produits sont donc plus longs et plus difficiles à être trouvés. Du coup, l'Union européenne a créé cette notion de médicament orphelin et elle a créé une loi pour inciter les industries pharmaceutiques et les biotechnologies à développer plus de traitements par rapport à, pour traiter les maladies rares, justement. Donc c'est ça, les médicaments orphelins.
Comment les progrès dans la recherche médicale et les avancées technologiques ont-ils contribué à la compréhension et au traitement des maladies rares ?
Donc ça, c'est une question que j'aime beaucoup parce que je pense qu'elle est d'actualité. La recherche scientifique, qu'elle soit fondamentale, ça veut dire très très ciblée sur le fonctionnement des cellules, des protéines. Donc c'est la recherche de scientifiques vraiment poussés, ou la recherche clinique qui est plus la recherche hospitalière. Elle travaille de pair et elle a fait grandement évoluer les thérapeutiques, que ça soit dans les maladies rares, que ça soit dans les maladies immunologiques auto-immunes, que ça soit dans les maladies cancéreuses. On comprend de mieux en mieux comment apparaissent et sont dues les maladies. Mieux on les comprend, plus on arrive à cibler les protéines pathologiques et les molécules qui ne fonctionnent pas, et plus on arrive ensuite à proposer des thérapeutiques qui vont être efficaces et de moins en moins néfastes. Par exemple, dans les, on va dire, les perspectives et les thérapeutiques nouvelles, dans les maladies génétiques, maintenant on a ce qu'on appelle la thérapie génique, c'est-à-dire que maintenant on identifie la mutation et on va, à l'aide de techniques que je ne vais pas expliquer ici parce qu'elles sont un peu complexes, modifier les gènes pathologiques chez la personne pour qu'elle exprime de nouveau un gène qui est sain. Donc ça c'est magnifique, c'est encore en cours d'élaboration et c'est pareil, chaque maladie est en cours d'avoir ces genres de traitements, mais ça c'est vraiment la perspective pour les maladies génétiques qui était avant quelque chose de terrible. On avait un gène qui marchait pas, c'était à vie, et maintenant on peut même dire ce gène-là, on va pouvoir peut-être le modifier et l'améliorer. Et ensuite, dans notre perspective, par exemple dans les maladies auto-immunes, on a toujours eu comme traitement très efficace, je donne un exemple, les corticoïdes, qui sont un médicament qui fonctionne souvent très bien, mais qui a pas mal d'effets secondaires au long cours. On prend du poids, on a du diabète, ça nous fragilise les os. Et maintenant qu'on a compris, on comprend mieux le mécanisme de chaque maladie et les protéines, maintenant la recherche et les industries pharmaceutiques développent des médicaments qui ciblent les protéines pathologiques de façon très ciblée. Du coup, c'est assez efficace, voire, et c'est moins délétère. Donc en fait, on voit encore une fois que grâce à la recherche, les médicaments et la compréhension des maladies se développent franchement.
Quels sont les principaux obstacles à la recherche et au développement de traitements pour les maladies rares ?
Alors, pour faire de la recherche, développer des traitements, il faut faire des études. Il faut faire des études cliniques, des études... Donc on a parlé de la recherche fondamentale. Ça, c'est pour comprendre comment fonctionne une maladie. Et après, pour pouvoir traiter, on fait de la recherche clinique. Donc, on prend des patients, on leur donne des traitements, on les compare avec les traitements qui sont, on va dire, standards, et on voit s'ils sont plus ou moins efficaces. Et ça, pour voir si c'est efficace, c'est des études statistiques. Et en fait, les statistiques, elles sont, on va dire, robustes et fortes quand on a un nombre de patients important dans l'étude. Par exemple, quand on étudie l'hypertension dans les problèmes de cardiologie ou des problèmes, encore une fois, vasculaires, les études de cardiologie, il y a des milliers et des milliers de patients qui sont étudiés et comparés. D'accord ? Le problème des maladies rares, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de patients. Donc pour faire des études, on n'a pas beaucoup de patients pour les études. Donc c'est des études qui sont moins robustes, elles prennent plus de temps à être faites, donc tout est plus fastidieux. Donc c'est pour ça qu'on a plus de mal à faire de la recherche par rapport à ça. Et ensuite, le deuxième obstacle, il est encore une fois économique. Comme on a dit, les industries, ben, c'est des industries, mine de rien, elles ont envie aussi de faire de l'argent et de gagner en tout cas de l'argent. Et donc du coup, elles ont plus tendance, et elles ont plus raison si elles veulent gagner de l'argent, de produire et de développer de la recherche sur des pathologies qui sont très fréquentes, comme les pathologies cardiovasculaires, le diabète et tout ça, plutôt que sur des maladies très rares où ils vont donner des médicaments à un nombre petit de patients. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que notamment le gouvernement, les lois créent des lois pour obliger les industries pharmaceutiques à produire des médicaments pour ça. Sinon, il y en aurait probablement moins. Mais maintenant, encore une fois, en tout cas pour la médecine interne et l'immunologie et les maladies auto-immunes, on a cette chance que l'immunologie, elle est très liée aussi à l'oncologie. Et l'oncologie, vu que c'est quelque chose de très fructueux aussi, qui touche beaucoup de personnes, ça nous aide parce qu'on a beaucoup de traitements qui étaient utilisés sur le plan oncologique qu'on utilise maintenant. Donc en fait, on a cette chance-là, par exemple.
Quels sont les défis éthiques et sociaux associés à la prise en charge des patients atteints de maladies rares, notamment en ce qui concerne l'accès aux soins et aux traitements ?
Alors, les défis éthiques et sociaux, je pense qu'ils sont pas mal expliqués par le gouvernement, ils ont pas mal de plans par rapport à ça. Déjà, il faut bien comprendre les maladies. Donc pour ça, il faut poursuivre la recherche et avant de ça, même bien recenser les maladies, bien recenser leurs signes cliniques pour apprendre à bien les connaître. Il faut aussi inciter à poursuivre l'avancée des thérapeutiques. Et donc ça, c'est un des premiers défis, c'est poursuivre la recherche, poursuivre le développement de thérapeutiques. Ensuite, un des défis aussi, c'est dépister au plus tôt les maladies. Plus on dépiste tôt, plus on les traite bien et vite. Donc il y a ce qu'on parle, on parle du dépistage néonatal. Toute personne qui a eu un enfant en a entendu parler. Donc à la naissance, on dépiste 13 maladies génétiques. Et donc ça nous permet d'avoir un diagnostic très précoce et donc une prise en charge rapide. Et ensuite, le défi, je pense aussi, il est social. Donc c'est encore une fois souvent des patients jeunes qui ont une altération de la qualité de vie. Donc il faut prendre en charge la pathologie, mais aussi il faut prendre en charge la personne qui est malade et lui permettre d'avoir, on va dire, la vie la plus normale et la plus acceptable avec une maladie. Donc je pense que ça aussi, c'est un encadrement du patient et ne pas être qu'une maladie, mais aussi ça. Et ça, je pense que c'est vraiment très important.
Alors, comme vous l'avez compris, la France joue un rôle pionnier dans le domaine des maladies rares. Elle est le premier pays en Europe à avoir élaboré et mis en œuvre un plan national pour diminuer l'errance diagnostique dans les maladies rares, structurer l'organisation de l'offre de soins pour ces maladies et améliorer sa lisibilité pour les patients. Le premier plan national maladies rares a mis en place progressivement une labellisation des centres de référence et une identification de centres de compétences régionaux ou interrégionaux pour les maladies rares. Ce sont les centres de référence multisites, CRMR, qui couvrent l'ensemble du territoire national. Avant de clôturer cette émission, j'aimerais vous parler de Mars Bleu qui marque le mois dédié à la sensibilisation au cancer colorectal, une maladie touchant chaque année plus de 43 000 personnes, soit près de 120 cas diagnostiqués quotidiennement. Un constat préoccupant s'ajoute à cette réalité, le taux de participation au dépistage du cancer colorectal et qui est estimé à seulement environ 33%. Pourtant, un dépistage précoce peut sauver des vies. 95% des cas de cancer colorectal surviennent après l'âge de 50 ans. Lorsqu'ils sont détectés suffisamment tôt, ces cancers peuvent être guéris dans 9 cas sur 10. Le dépistage est simple et gratuit puisqu'il est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Vous pouvez obtenir un kit de dépistage soit en ligne sur mon kit.dépistage-colorectal.fr, en pharmacie avec votre carte vitale ou lors d'une consultation chez votre médecin. Si vous avez entre 50 et 74 ans, il s'agit d'un test simple, rapide et indolore à effectuer chez vous. Ce test immunologique peut être réalisé en seulement 3 minutes et les résultats vous seront envoyés par courrier. Il est important de consulter un spécialiste en cas de sang dans les selles, de perte de poids inexpliquée ou de troubles du transit. Si vous avez des antécédents personnels ou familiaux, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Le dépistage associé à une prévention efficace augmente les chances de guérison. Le mode de vie joue un rôle crucial dans le risque de développer un cancer colorectal. Évitez le tabagisme, limitez votre consommation d'alcool, adoptez une alimentation équilibrée, riche en fibres et pauvre en viande rouge. Pratiquez une activité physique régulière. Le dépistage est important non seulement en mars, mais tout au long de l'année. Merci beaucoup, docteur Georges, pour cette intervention sur le plateau de Radio JM.
Merci de m'avoir invité.
Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram, ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaatias@radiojm.fr. Merci.
Retrouvez les interviews santé de Rebecca.